Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite.
Donc, on est de retour sur le podcast Commerce Élite et je suis en compagnie aujourd'hui de Antonia Racotto, la directrice de la création du groupe J7. Et aujourd'hui, on va parler ensemble du sujet du moment. On va parler ensemble d'intelligence artificielle reliée à la création de contenu, reliée à la création de publicité. Mais avant toute chose, Antonia, comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va très bien. Je suis contente de parler du petit sujet là qui arrive. Ça va être sympa.
Le petit sujet, personne n'en parle de toute façon en ce moment. L'intelligence artificielle, c'est un terme que personne n'a jamais utilisé, surtout dans les 18 derniers mois. Et nous, on s'est intéressé à ça chez Pure Commerce et chez J7. Et Antonia, il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions à se dire, est-ce que l'IA est en train de voler mon emploi? Est-ce que l'IA est en train de tout révolutionner? La bonne réponse, c'est l'IA doit s'intégrer dans notre quotidien. Et quelqu'un qui l'utilise bien peut être encore meilleur dans son emploi de graphiste, de motion, designer, de rédacteur. Comment on s'y prend chez J7 pour intégrer ça et chez Pure Commerce pour intégrer ça dans nos outils de travaux?
Eh bien, tout simplement, on l'utilise de manière intelligente. On l'utilise vraiment comme un outil parce que l'IA, ça a un coût, ça a des qualités, ça a des défauts, etc. Et donc, nous, on va l'utiliser de manière intelligente et méthodique pour justement l'intégrer à notre quotidien. Donc là, par exemple, là où on a le plus testé et où on continue de faire des gros tests, c'est notamment au niveau de la rédaction, pour pouvoir générer des déclinaisons de textes rapidement, parce qu'on va pas se mentir, pour un concepteur-rédacteur, décliner constamment les mêmes textes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus stimulant dans son quotidien. Lui, ce qu'il va chercher, c'est la conception. Donc, on va l'utiliser dedans pour prédéfinir des sections de email, ça va être pratique. La traduction, qui a envie de passer des heures devant la traduction quand tu fais de la conception? Parce que nous, nos rédacteurs sont concepteurs. C'est très important de le dire. Et puis aussi pour faciliter la compréhension technique d'une marque. Je sais pas, imaginons, on est dans de la cosmétique et on veut mieux comprendre la composition des produits, quels sont les effets bénéfiques, etc. Ça va être intéressant aussi pour eux de faciliter leur travail de recherche avec l'IA. Donc, ça, c'est pour nos concepteurs-rédacteurs.
Fantastique. Et bon, pour nos concepteurs-rédacteurs, et je pense qu'on a énormément d'outils selon les différents collègues à l'intérieur de notre organisation. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ces différents outils?
Yes. Alors là, en ce moment, on est vraiment dans les tests de design et motion design. Donc, on va utiliser plusieurs outils. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va les utiliser et les choisir d'une certaine manière. Comme je l'ai dit précédemment, il y a un coût. Donc, on va d'abord utiliser les IA qui sont disponibles sur les différentes plateformes où on a déjà des accès. Donc, par exemple, comme tout bon designer, on a la suite Adobe, donc on va avoir Photoshop Beta. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Photoshop Beta, il faut savoir lui parler. Donc, on va faire des petits tests pour intégrer dans nos visuels, par exemple, des backgrounds générés par Photoshop Beta. On va l'utiliser aussi pour créer différents environnements, jouer un petit peu avec du matériel graphique finalement qu'on n'a pas à disposition. C'est vraiment ça. On n'a pas le matériel, on va le créer. Mais voilà, il y a des limites, j'en parlerai un petit peu plus tard. On utilise aussi vidéo pour les sous-titres. Ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Tous nos motion designers sont si heureux d'avoir vidéo, de ne pas faire les sous-titres mécaniquement. Ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Pareil pour de la vidéo. Donc, comme Photoshop Beta qui crée des backgrounds en images fixes, eh ben, on va faire un petit peu pareil avec de la vidéo et on va utiliser InVideo AI. Donc là, ça va générer des backgrounds en mouvement. Imaginons, je sais pas, on a un camion. Notre produit, c'est le camion. Il est dans la rue. Derrière, il y a des nuages. Eh ben, avec InVideo AI, on va tout simplement faire bouger les nuages. Donc, c'est un petit travail comme ça qui nous facilite le quotidien, même s'il y a des petites limites parce que des fois, le détourage est pas le plus sexy du monde. Mais si, pour le commun des mortels, on ne voit pas les petits détails, ça passe très bien.
Et je te pose une question, Antonia, ici, avant d'aller sur les prochains outils. À quel point également j'aimerais qu'on parle de un petit peu comment ça se déroule au niveau de l'intérêt que nos collègues à l'interne vont avoir de ça. Parce que je pense que des fois, les gens abordent le tout avec un petit peu de peur. Mais au final, J'en ai parlé avec certains de nos collègues récemment. On est très content d'avoir ces différents outils-là. Donc, comment ça se déroule? Je serais curieux de voir un petit peu l'adoption.
Yes, ben, je pense que ça s'est vraiment passé en deux temps. C'est-à-dire que l'année dernière, quand on a eu la vague de IA, c'est normal que le monde soit effrayé. On est un peu sur une révolution technologique. Donc, est-ce qu'on va perdre notre job? Est-ce que ça va mal se passer, etc.? Nous, on l'a fait intelligemment. On l'a intégré comme outil et non comme remplacement du travail de chacun. Donc, c'est là où ça a été vraiment bien perçu parce qu'on l'a intégré dans un premier temps pour solutionner des tâches qui étaient vraiment les moins agréables, les sous-titres, les déclinaisons. Et donc, à partir du moment où notre équipe a bien compris qu'on était là pour leur faciliter le quotidien et non pas pour remplacer leur créativité et leur technicité, on était bon. Mais il a fallu le faire en deux temps. Parce que l'année dernière, c'était un peu moins facile que cette année, hein, on va pas se mentir.
Je pense que l'année dernière, il y a eu un petit peu ce cataclysme qui s'est déroulé et tous les gens ont commencé à se faire un petit peu des idées. Mais au final, on se rend compte que ce sont des outils qui sont là pour rester, qui s'intègrent dans notre quotidien. Mais si on les intègre bien, on peut être meilleur, plus productif et surtout faire des tâches, comme tu l'as mentionné, Antonia, qu'on aime davantage. Je pense que n'importe quelle personne qui travaille dans le milieu du travail à faire des tâches répétitives qu'on aime un peu moins et il y a d'autres tâches qu'on aime un peu plus, mais plus souvent qu'autrement, l'IA va remplacer les tâches qu'on aime un peu moins afin qu'on puisse se focusser sur les tâches qu'on aime un peu plus. Donc, je pense que c'est un point vraiment important à garder pour notre audience. D'autres types d'outils qu'on utilise également chez Pure Commerce?
Yes! D'ailleurs, que j'ai partagé avec de nombreuses personnes et qui a sauvé la vie de plus d'une personne, ça s'appelle Upscale. C'est pour agrandir une image en garantissant sa qualité. Donc, généralement, quand on grossit une image, on peut avoir des petits problèmes de pixels. Et là, avec Upscale, vraiment, mais ça change la vie. Ça, c'est le petit bonheur de tout le monde, notamment quand on reçoit, je vais donner une petite anecdote, un logo sur un PDF. Pour tous les créateurs, ils comprendront ce que je veux dire. Avoir un logo dans un PDF, c'est vraiment pas pratique. Et donc, on a pu faire la capture du PDF, l'agrandir et puis retravailler correctement le projet pour que ce soit qualitatif pour tout le monde. Mais sachez-le, ça fait de la magie. Et puis, à part Upscale, dernièrement, c'est Envato. Donc nous, c'est notre banque d'images stock. C'est là-bas qu'on va aller récupérer tout ce qui est vidéo, etc. Et donc, en ce moment, ils sont en train de tester leur IA. Donc, c'est pas encore au point. C'est un petit peu complexe d'utilisation parce que c'est toujours par des mots-clés. Donc, il faut être très clair. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pointer du doigt. C'est que l'IA, il faut savoir lui parler. On est vraiment sur une communication. Il faut savoir se faire comprendre. Et donc, avec Envato, eh bien, on crée des images et des illustrations en 3D. Donc là, pareil, quand on n'a pas de matériel graphique, c'est plutôt pas mal. Et puis, le petit dernier en date, c'est Suna. Suna, je l'ai découvert il y a une semaine. Et Suna, ça a l'air vraiment pas mal. Mais je vais pas en dire plus parce que je suis en train de tester. Je vois les limites. Mais je pense que ça va être un outil qui va être prometteur pour les gens qui font de la création prochainement.
Et là, tu m'as ouvert une porte, Antonia. Oui, il y a le beau côté. Oui, il y a tous ces avantages-là qu'on a avec l'intelligence artificielle. Mais on est encore au tout début. On est encore dans un contexte très embryonnaire avec l'intelligence artificielle. Quelles sont les limites mars 2024 qu'on voit avec tous les outils que tu nous as mentionnés?
Eh bien, il y a les bugs. Il y a les bugs parce que, comme je l'ai dit, il faut savoir parler à l'IA. Et des fois, il va nous sortir des choses complètement irréelles. C'est-à-dire qu'il va avoir du mal à traiter notamment les proportions. C'est pour ça que je teste Suna. On en reparlera plus tard si c'est concluant. Mais on a un problème de proportion. Des fois, il ne comprend pas exactement ce qu'on veut lui dire. Il y a la limite aussi du langage. Toutes les IA ne parlent pas plusieurs langues. Donc, on peut être limité si, par exemple, on n'est pas bilingue, notamment en anglais. Très important. Généralement, l'IA est codée à partir de l'anglais. Donc, ça peut être une certaine limite à ce niveau-là. Et puis, il y a des IA qui font du plagiat. On va pas se mentir, ils vont aller se picorer un petit peu à gauche, à droite pour faire leur petite affaire. Et ça va être important de bien choisir ces IA pour les utiliser à bon escient et qu'on ne soit pas dans le plagiat. Parce que une IA, ça se nourrit. Et pour se nourrir, il faut qu'il trouve ses sources quelque part. Donc, c'est pour ça que nous, on est un petit peu malins chez G7. On personnalise nos IA. Ça, je pense que t'en parleras peut-être dans un autre podcast, Antoine. Je sais pas. On va voir.
Beaucoup d'avancement, effectivement, avec les intelligences artificielles. Donc, on voit un peu les limites. Y a-tu d'autres choses qui te viennent en tête ici, Antonia?
on a un petit peu du mal à personnaliser. C'est-à-dire que les IA, ils vont sortir d'un coup une proposition. Et là, si on n'a pas de bon designer, pas de bon rédacteur, etc., ça peut être difficile de travailler ce qui est déjà sorti si on le retravaille pas derrière avec la patte humaine. Et attention aussi aux droits d'exploitation. Et là, je parle vraiment pour les gens qui font de la publicité. Très, très important. Il y a des IA qui sortent des images et qu'on n'a pas forcément le droit d'utiliser en publicité. Donc, vérifiez bien vos licences pour que vous puissiez avoir les droits nécessaires pour utiliser ce qui a été sorti. Par exemple, je vais donner Adobe Firefly, qui est très, très connu justement comme début de IA et qui a certains de son matériel finalement qui est interdit à l'usage commercial. Donc, vérifiez tout ça.
Intéressant. Et bon, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter aujourd'hui, Antonia, qui sont en e-commerce, qui se posent des questions sur comment utiliser l'IA dans leur organisation. Qu'est-ce que tu leur proposerais pour bien commencer? Pour eux, pour leurs équipes, la narrative peut-être à utiliser? Parce que je pense que c'est souvent ça la question. Tout le monde sait qu'à un certain moment, on va commencer, mais c'est de savoir comment qu'on structure ça pour que ça soit bien compris par nos équipes et qu'on puisse commencer avec des premières victoires, qui est souvent la chose la plus importante quand on intègre une technologie aussi forte. On veut s'assurer que les gens comprennent rapidement la qualité que ça peut amener à notre travail.
Yes, déjà, c'est de l'apporter dans des petits projets, on va dire, sans impact. Ça va être là que ça va être intéressant parce que si on utilise l'IA sur une super production, ça risque d'être une perte d'argent et de temps, aussi bien pour l'entreprise que pour la personne qui réalise le projet. Donc là, c'est déjà cibler le type de projet sur lesquels on va les utiliser. Une fois que ça c'est fait, ça va être vraiment d'expliquer en quoi consiste la plateforme, de quelle manière l'utiliser et de donner un petit peu cette carte blanche à la personne qui va l'utiliser pour qu'elle puisse se l'approprier. Parce que comme je l'ai dit, l'IA, il faut savoir lui parler. Donc, on pourra jamais donner des guidelines précises à la personne qui va utiliser l'IA pour que ça fonctionne parfaitement bien. Il faut qu'il apprenne à lui parler. Donc, d'abord, on choisit le projet. Ensuite, on demande à la personne de travailler avec, de voir comment ça marche et surtout de nous donner du feedback. Là où ça a été vraiment intéressant auprès de nos équipes, c'est qu'ils nous ont donné les points positifs comme les points négatifs. Donc, eux-mêmes arrivaient à décerner et à nous, tout simplement nous communiquer qu'est-ce qui leur faisait plaisir et qu'est-ce qui leur faisait moins plaisir. Donc après, c'est là où c'est important de mettre un peu plus d'effort justement sur ce qui a bien marché pour pouvoir l'intégrer véritablement à nos méthodes de travail.
Ça fait du sens. Bon, intéressant. Le mot de la fin, Antonia, peut-être avant que je laisse filer sur l'intelligence artificielle en 2024, comment vois-tu la suite? Quelle est ta prédiction sur le futur?
C'est le début. Ce n'est que le début.
Donc, c'est le temps de se mettre les orteils à l'eau et de tester tout ça. Très, très, je le répète, très important de se mettre au travail avec ça dès maintenant. Antonia Rakoto, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir de discuter avec toi de création, des outils qui, on le sait, vont pouvoir aider les gens qui nous écoutent. Et parlant de gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commercial.